Gloire à Dieu, nous allons lire dans 1 Pierre 1, 22 à 25. 1 Pierre 1, 22 à 25. Notre titre, c'est Histoire, théâtre ou réalité. Voilà, la parole de Dieu, c'est est-ce que c'est de l'histoire ou du théâtre ou la réalité? Voilà, c'est ça notre partage. Nous lisons donc dans 1 Pierre 1, 22 à 25.
Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. De tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement.
Amen. Voilà. Donc, et c'est cette parole que nous pouvons finir. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement.
Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile.
Voilà. Et cette parole, c'est l'Évangile. C'est ce qui vous a été annoncé par l'Évangile. Donc ce texte nous montre que tout le reste n'est que l'herbe. Voilà. Quel que soit ce qu'on fait, ordinateur, intelligence artificielle, gratte-ciel, tout ça c'est de l'herbe. Ça va connaître un temps de gloire et ça va disparaître. Mais la parole de Dieu est permanente et vivante. Voilà, nous voulons insister sur le fait que la parole de Dieu est vivante et permanente. Ça veut dire que ça bouge, la parole de Dieu, ça travaille et ça ne meurt jamais. Voilà, c'est éternel, c'est vivant et permanent. Parce qu'il y a des créatures aussi qui sont vivantes. Mais elles ne sont pas permanentes. Voilà, les lions ne sont pas permanents, mais la parole de Dieu est vivante et permanente. Elle agit. Ce n'est pas de l'histoire. Voilà. Nous voulons faire la différence entre l'histoire et la parole de Dieu. La parole de Dieu, même si elle nous retrace certains événements du passé, ce n'est pas un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Mais elle nous parle des événements que Dieu a partagés avec son peuple autrefois afin que ça nous serve de leçon, afin de nous aider à comprendre qui est Dieu, à apprendre qui est Dieu. Mais ce n'est pas un livre d'histoire. Vous savez, quand on va en Égypte, on fait le tour des pyramides. Les pyramides, c'est extraordinaire. Hein. Jusqu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à savoir, les humains, malgré les ordinateurs, nous n'arrivons pas à savoir comment ils ont construit les pyramides. Tellement c'est grand et les blocs de pierre qui les constituent sont immenses. Alors, ils se disent, mais comment à cette époque ils ont pu faire ça? Mais malgré cet exploit, ça reste des pierres. Et souvent, ces pyramides sont restaurées. L'être humain aide à ce que ça demeure. Le sphinx de Gizeh également, l'être humain consolide ça par des travaux. Mais en soi, ce sont des œuvres extraordinaires. Mais c'est devenu des œuvres historiques. Les gens qui ont bâti ces pyramides n'existent plus. Même leur race n'est plus là pour témoigner que c'est nous qui avons bâti ces pyramides. C'est passé, c'est de l'histoire. Les Égyptiens peuvent se vanter d'avoir une histoire glorieuse à travers ces pyramides, mais ces pyramides-là ne donnent pas la vie. Ces pyramides ne changent pas la vie d'un humain. Elles sont figées. Ça ne peut plus produire quoi que ce soit, et ça n'a jamais produit. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire quand tu te vantes d'avoir eu un arrière-grand-père gouverneur, président ou maire d'une ville. Ça, c'est de l'histoire. Il est enterré, il est dans son tombeau et il ne peut rien faire pour toi aujourd'hui. Il ne peut pas te donner un logement social. C'est de l'histoire, tout ça. Et nous voulons dire aujourd'hui que la Bible, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la réalité. Et la parole de Dieu est permanente et vivante. Mais voilà, il faut que nous rappelions cela, parce que avec le temps, quand nous vivons dans le christianisme, nous finissons par considérer la Bible comme un livre, tout comme un autre livre. Ça peut être un livre scientifique, un livre d'histoire surtout, puisqu'il y a les événements du passé dedans. Et ça, c'est dangereux. Et d'ailleurs, nous voyons certaines personnes étudier la Bible comme on étudierait toute autre science. C'est très dangereux parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas l'étudier comme si on étudiait d'autres sciences. C'est ce qui a conduit beaucoup de théologiens à perdre la foi. Ils ont perdu la foi parce qu'ils ont voulu saisir Dieu comme on peut comprendre les autres matières. Or, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est la réalité, c'est la vie. Elle est permanente et vivante. La Bible, ce n'est pas non plus du théâtre. Ce n'est pas une mise en scène où on vient, on s'entend, ben toi, tu seras le roi. Et moi, je serai le premier ministre dans le théâtre, dans le sketch, dans le film. Mais dès que le film est fini, ah ben, c'est fini, hein. Ta position de roi. Ta position de roi ne dure que le temps du théâtre. Ça, c'est pas la Bible non plus. Et le théâtre, ça peut être nos cultes. Pendant le culte, Dieu est un roi. Dieu est extraordinaire. Pendant le culte, Dieu est saint. Nous devenons saints. Mais dès que le culte finit, ben, c'est la vie normale revient où, c'est le salaire qui a du poids dans ta pensée. La vie normale revient où la maison du voisin devient un objet de convoitise pour toi. Voilà, la vie normale revient avec les colères de tous les jours. On oublie complètement ce qu'on a professé pendant le culte. Donc, nous refusons cela. La Bible, c'est pas un théâtre. Hein. Vous savez, pour faire du théâtre, il y a des textes. Hein. Il y a des textes où il y a les rôles de chacun. Donc chacun doit apprendre son rôle et puis au moment du théâtre, il joue son rôle. Et beaucoup vivent la foi chrétienne comme une forme de théâtre. Donc dans certains endroits, il joue un rôle de pureté, un rôle d'adorateur, un rôle de prédicateur. Mais dès que cette parenthèse-là finit, ben, il retrouve la vie normale où la Bible, la parole de Dieu, n'agit pas, n'intervient pas plutôt dans la vie de tous les jours. Or, si la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est, nous devrions l'utiliser dans la vie de tous les jours. Jésus a utilisé sa parole dans la vie de tous les jours. Il a multiplié les pains par sa parole. Il a dit à la tempête, « Silence, tais-toi !» par sa parole. Il a marché sur les eaux. Il a guéri les malades. Il a utilisé la parole à tout moment. Et dans l'Ancien Testament, Josué a arrêté le soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi par la parole de Dieu. Donc, ce n'est pas une affaire de théâtre, de sketch pendant un culte où on devient saint et puis dès que ça finit, on retrouve une vie comme tous les humains. Où on pleure quand on est licencié, où on a peur d'être renvoyé. Non, c'est où on a des convoitises, on manipule pour atteindre ses objectifs. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas un sketch, ce n'est pas un théâtre. Où pendant le culte, tu es sage, mais dès que tu retournes chez toi, tu es insoumise à ton mari, tu fais des problèmes à tout le monde, tu cries à gauche, à droite. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas une mise en scène, ce n'est pas du théâtre. C'est la réalité, c'est puissant, ça change, ça transforme. Et comme c'est puissant, c'est réel, nous devions l'utiliser partout. Partout. Notre respiration, nous l'utilisons partout. Nous ne respirons pas seulement pendant le culte. Donc après le culte, nous continuons à respirer. Il doit en être ainsi de la parole de Dieu, puisque elle est une vraie puissance de vie. C'est elle qui nous donne la vie. C'est écrit, le juste vivra par la foi. La foi en quoi ? En la parole de Dieu. Donc tu ne peux pas vivre juste pendant le culte, pendant le théâtre, et après tu arrêtes ta respiration. Mais là, tu vas mourir. Voilà notre exhortation de ce matin. Ce n'est ni de l'histoire, ni un théâtre. La parole de Dieu, elle est permanente et vivante. Elle est agissante à tout moment. Nous ne pouvons pas la limiter à un récit d'événements du passé. Ça voudrait dire que cette parole s'est arrêtée dans le passé. Nous refusons cela. Ou nous allons passer notre temps à parler que des exploits du passé de Dieu. Nous refusons cela. Nous voulons dire aujourd'hui que Dieu est réel, encore aujourd'hui. Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Chaque chrétien doit vivre la parole de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire d'être bloqué dans le passé. C'est aujourd'hui qu'il faut vivre cette parole. C'est aujourd'hui qu'il faut fonctionner, bâtir selon cette parole. Elle est réelle, elle est vivante. Sans pour autant forcer la main à Dieu, mais Dieu nous appelle à décider que désormais nous allons fonctionner avec cette parole par la foi en lui. Nous allons lire quelques exemples qui montrent la réalité de cette problématique. Jésus en parle dans Jean 8, 31 à 41. Nous commençons dans Jean 8, 31 à 41. Jésus va dire à ces gens-là, mais attendez, la parole de Dieu, ce n'est pas une histoire où nous allons dire nous avons un ancêtre extraordinaire, mais dans la vie d'aujourd'hui, nous ne voyons rien du tout. Vous savez, aujourd'hui, où est l'Empire romain ? Voilà. L'Empire romain n'existe plus. Voilà. Donc les Italiens peuvent toujours se vanter d'avoir eu le plus grand empire au monde, ben, ça ne sert à rien aujourd'hui. L'Empire romain n'est plus là, c'est de l'histoire. Mais la parole de Dieu, elle est là. Comme elle était du temps de Jésus, comme elle était au moment où Dieu a créé. Parce que quand Dieu a créé, il a parlé. Ben, cette parole est encore pareille aujourd'hui. C'est ça que nous voulons prêcher. Nous lisons le débat de Jean 8, 31, 41.
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu.
Voilà le débat qu'il y a là. Jésus dit, sa parole est une réalité. Elle est puissante pour libérer. Donc, il dit aux Juifs qui étaient à ses côtés, demeurez dans ma parole, connaissez-la, vivez-la, vous allez être libérés de tout. Ils disent, mais nous ne sommes pas esclaves pour être libérés. Jésus dit, mais tout humain en quelque sorte et esclaves du péché. Ah oui, mais nous, nous sommes des descendants d'Abraham. Il dit, mais si vous étiez des descendants d'Abraham, vous lui ressembleriez. Mais vous n'êtes pas à l'image d'Abraham. C'est Abraham pour vous, c'est quoi? C'est de l'histoire. Ce n'est pas de la réalité, c'est de l'histoire. Il ne faut pas que Jésus pour toi devienne de l'histoire. Le Jésus, comme on dit, historique, qui a existé un jour, et tu as choisi ce camp-là de le suivre, le camp de suiveurs de Jésus, mais historique tout simplement. Tu reconnais qu'il est fils de Dieu, qu'il est venu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, et puis c'est tout. Bon, tu te dis qu'un jour tu iras au ciel, mais la réalité de Jésus de tous les jours, il n'y a pas. Ça, ce n'est pas ce que la Bible nous recommande. Jésus dit, mais votre Abraham n'est qu'un Abraham historique, parce que si c'était un Abraham réel, vous seriez comme lui. Actuellement, vous manifestez les fruits plutôt de notre Père. C'est le diable que vous imitez. Vous ressemblez plutôt au diable. Vous ne ressemblez pas à Abraham. Mais moi, c'est pourquoi je vous amène la parole, une parole vivante qui peut vous aider à devenir comme Abraham et même à être mieux qu'Abraham, à être comme moi-même. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ça la parole de Dieu. Elle est réelle pour délier, pour libérer. Mais c'est vivant. Ce n'est pas une histoire d'Abraham. Nous avions un ancêtre glorieux. Nous avons connu, comme les musulmans vont dire, quand ils citent le nom de leur prophète, ils rajoutent une phrase de louange. Mais et après ça sert à quoi tout ça, puisque le monsieur est dans son tombeau. Il est mort. Il ne peut plus rien faire maintenant. Il n'est plus vivant. Tout ce qu'il dit aux musulmans, c'est faites ceci, faites cela. Mais Jésus dit non. Moi, c'est ma parole. Quand vous l'entendez et que vous l'acceptez et que vous décidez de vivre selon elle, elle-même en vous, elle vous donne la force de faire ce qu'elle dit. C'est Dieu qui a dit que la lumière soit, et elle fut. La lumière ne s'est pas créée toute seule. De même, un chrétien ne peut pas décider tout seul d'être correct. Il accepte la parole de Dieu, il reçoit la parole de Dieu, il accepte la vision que propose cette parole, et quand il croit, cette parole devient réalité en lui. Comme Dieu avait dit que la lumière soit. Cette lumière est devenue réalité. Donc quand un chrétien accepte la parole, cette parole devient réalité pour lui. Mais faut-il qu'il décide d'accepter, de vivre selon cette parole-là? C'est ça la différence. Mohamed va dire, fais ceci, fais cela. Bouddha va dire, fais ceci, fais cela. C'est tout. C'est-à-dire que par tes propres efforts, fais ceci, fais cela. Et ça ne marche pas. Même s'ils ont fait peut-être des exploits autrefois, mais ça est devenu historique. Mais Jésus, c'est la réalité. Aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il dit à ces gens-là, mais votre Abraham, il est historique. Moi, je parle d'un Abraham réel aujourd'hui. Quel que soit l'être humain qui a été glorieux à un moment donné, il devient historique le jour de sa mort. C'est fini. On parle de lui dans le passé et ça s'arrête là pour Mohamed Ali, ça s'arrête là pour Jean-Paul II, ça s'arrête là, ça s'arrête dans le passé. Et pour nous aussi, on parlera de nous un jour dans le passé. Mais il y a quelque chose qui reste permanent et vivant, c'est la parole de Dieu. Donc chaque jour, où que tu sois, si tu crois à nouveau à cette parole, elle se manifeste, elle produit du fruit. Voilà notre exhortation. Arrêtez de considérer la Bible comme un livre d'histoire ou bien un livre de préparation à un sketch qu'on l'on vit pendant les cultes ou pendant certains moments spéciaux, mais vivre cette parole au jour le jour, l'utiliser pleinement, l'exploiter pleinement par la foi. Et elle va manifester sa réalité encore aujourd'hui. Alors, nous lisons encore un débat dans Marc 2, 1 à 10, un débat entre Jésus et les religieux de l'époque, hein, concernant toujours la parole de Jésus. Marc 2, 1 à 10, que je cite souvent.
Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, emmenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. »
Verset 12.
Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Amen. Une fois de plus, débat théologique. Les gars sont devenus des spécialistes de débat théologique. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Ça, c'est réel. Ça, c'est de la réalité. Mais ces gens disent, mais non, il n'y a que Dieu seul qui peut pardonner le péché. Jésus est en train de blasphémer. Ces gens-là, ils n'ont rien fait pour cet homme-là. Ce sont les spécialistes de la religion, spécialistes de l'étude de la Bible comme si c'était un livre de science. Ces gens, ils n'ont plus tellement confiance à la parole de Dieu comme étant la parole permanente et vivante. Ils peuvent se réfugier dans une logique scientifique, dans une logique théologique humaine. Bon, en fait, c'est humain carrément. Ils disent, mais Jésus n'a pas le droit de dire tes péchés sont pardonnés. Pour qui il se prend ? Mais vous qui parlez là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour cet homme-là ? Bien-aimé, ce qui compte, c'est, comme Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Les grands discours, c'est du théâtre. C'est de l'histoire, visite des pyramides, visite des ruines à l'Acropole en Grèce, à Athènes, visite des ruines de temples romains. Tout ça, c'est de l'histoire, on va dire, mais c'était extraordinaire autrefois, c'était grand, c'est de l'histoire. Ça va faire quoi aux gens qui font la visite touristique ? Ça va rien faire du tout. Ces gens-là sont là dans les débats. Mais oui, mais il n'a pas le droit de dire ceci, il n'a pas le droit. Mais qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là ? Qu'est-ce que vous proposez, bien-aimés ? Nous voulons dire aujourd'hui, ne passons plus notre temps à des débats vains. Proposons quelque chose. Vous proposez quoi par rapport à la Bible ? C'est ça. Ah oui, mais ce n'est pas correct ceci, ce n'est pas correct cela. Oui, mais toi tu proposes quoi ? Qu'est-ce que toi tu fais avec ce que tu connais de Dieu ? Voilà. Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Ah, mais il n'a pas le droit, mais vous proposez quoi ? Rien du tout. Jésus dit, ce que je viens de dire, ce ne sont pas des paroles en l'air. Parce que les paroles en l'air, tout le monde peut dire cela. Tout le monde peut dire que Bouddha, c'est le meilleur. Ça, c'est des paroles en l'air. Tout le monde peut dire que Mohamed, vous parlez à un musulman, pour lui, Mohamed, c'est, c'est même la gloire. Mais la réalité est que ce monsieur a pris une fille, a épousé une fille de 6 ans. Et puis, l'a connue à 9 ans. C'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'il a tué tant de personnes, il a tué tant d'hommes pour prendre leur femme. C'est ça la réalité. Vous direz, mais il est extraordinaire. Les discours, les paroles, tout le monde peut dire. Tout le monde peut parler. Tout le monde peut se vanter d'être extraordinaire, d'être saint. Tout le monde peut le dire. Tout le monde peut dire, ma religion est la meilleure. Nos ancêtres, comme c'est la mode aujourd'hui en Afrique, retour aux ancêtres. Nos ancêtres sont les meilleurs. Mais la réalité, c'est qu'ils sont dans le tombeau. Et ils n'en sont pas sortis. C'est ça la réalité. Les discours, le théâtre, tout le monde le fait, peut le faire. Tu peux être président dans le théâtre. Pendant donc un sketch, tu joues le rôle de président. On te donne même un costume nouveau. Mais dès que le sketch finit, on te retrouve à porter les cartons à Leclerc. Voilà. C'est ça la réalité. Le sketch, dans le sketch, tu étais président. Mais quand le sketch finit, tu retrouves ton boulot d'informaticien, tu retrouves ton boulot de laver les voitures. C'est ça la réalité. Jésus dit, moi je ne fais pas du sketch. Je ne suis pas en train de dire des paroles en l'air. Quand j'ai dit tes péchés sont pardonnés, cette phrase-là, tout le monde peut le dire. Donc par vantardise, par bêtise, par orgueil, tout le monde peut dire ce genre de phrase. Mais moi je vais vous montrer que ma parole à moi, c'est la réalité. La preuve que les péchés sont vraiment enlevés de cet homme, c'est qu'il va, il ne sera plus handicapé, car l'handicap, les maladies ont pour source le mal, le péché qui est entré dans le monde. Je vais vous montrer que lui, je viens de lui enlever tous ses péchés. Donc, aucun handicap ne peut avoir prise sur lui. Lève-toi et marche. Parce que ça, vous ne pouvez pas le dire. Parce que vous n'êtes sûr de rien. Votre parole est vaine. Moi, ma parole est sûre, dit Jésus. Je veux vous montrer que cet homme n'a plus de péché. Donc, au moment où j'ai dit tes péchés sont pardonnés, il n'en a plus. Conséquence, puisqu'il n'a plus de péché, aucune infirmité n'a le droit de demeurer en lui. Lève-toi et marche. Cet homme s'est levé et a marché. Les gens ont vu. Ils ont vu la vraie parole. Une parole effective. Je me souviens d'Afshin. Afshin, c'était un musulman iranien. Et c'était comme dans l'islam, on peut faire aussi des pratiques de mélange Coran et les esprits. Les esprits ne sont pas toujours cités comme quelque chose de négatif. Donc, vous connaissez l'histoire de la lampe d'Aladin. Donc, les djinns, tout ça, c'est considéré comme des êtres invisibles, des êtres d'un autre monde, mais pas à 100% négatif comme dans le christianisme. Et ce monsieur-là était un manipulateur d'esprit, donc les gens venaient le consulter pour faire jeter des sorts aux autres. On venait le consulter pour se venger sur quelqu'un, et il arrivait à utiliser le Coran et les esprits, et il était puissant. Mais un jour, il y a un esprit qui a commencé à étouffer sa gorge, et il se sentait mourir, et il a entendu une voix qui lui a dit, mets le nom de Jésus dans l'affaire. Donc, il a dit, mais c'est pas possible, moi ce que je sais, vous savez, la shahada, donc la récitation de foi islamique. Il a fait la shahada plusieurs fois, rien du tout. Il a crié Mohamed, rien du tout. Mais la voix lui a dit, il faut mettre le nom de Jésus. Et entre-temps, il se sentait mourir. L'esprit commençait à l'étouffer définitivement. Et c'est là qu'il a dit, ben là, la vie d'abord, je crie Jésus. Dès qu'il a dit Jésus, l'esprit qui l'étouffait a fui. Cet homme a vécu la réalité du nom de Jésus-Christ. Et quand Jésus lui paraît, Jésus lui dit, je pardonne tes péchés. Afshin, dans son témoignage, il dit, quand il a dit qu'il pardonne mes péchés, j'ai senti physiquement que les péchés étaient partis. Il a dit, j'ai senti ça physiquement, que je n'en veux plus. Ça, c'est la réalité de la parole de Jésus, permanente et vivante. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Nous devons sortir de la logique purement historique. Oui, il y a des faits historiques, mais ces faits historiques sont là pour nous rappeler que la parole de Dieu est permanente et vivante, pas pour nous garder dans l'histoire. Nous devons sortir de la logique théâtrale. La parole, ce n'est pas pour vivre seulement dans une salle qu'on appelle église. Et dès que tu retournes chez toi, tu oublies. Je me souviens d'une dame qui était triste, malheureuse. Et elle est partie avec son fils dans une réunion chrétienne, il y a 2 siècles ou 3 siècles environ. Et dans cette réunion chrétienne, le prédicateur a cité Jean 5:24 où Jésus dit, « en vérité, je vous le dis, quiconque croit au Fils de Dieu a la vie. Il ne passe plus en jugement. Il est passé de la mort à la vie. » Cette femme, quand elle écoute ce verset-là, tout son être est transformé. Tout son être est transformé. Parce que ce verset dit, en vérité, quiconque croit au Fils de Dieu ne passe plus en jugement. Or, qu'est-ce qui nous rend malheureux? Nous l'avons vu précédemment. Ce qui nous rend malheureux, c'est qu'au fond de nous, nous ne sommes pas sûrs du pardon des péchés. C'est ça qui rend les humains anxieux. Le péché rend anxieux, même inconsciemment. Et cette femme était malheureuse. Et quand elle entend cette parole qui dit « en vérité, celui qui croit en moi ne passe plus en jugement, mais il est passé de la mort à la vie », c'est parti. Ce poids-là est parti. Elle a retrouvé la vie, la joie. Elle a noté le verset. Et dès qu'elle a mis pied à la maison, elle est avec son fils, dès qu'elle retourne à la maison, la tristesse revient à nouveau, l'anxiété revient à nouveau. Et son fils, constatant cela, il prend le papier où il y avait le verset, il vient dire, « Maman, la parole n'a pas changé. Cette parole que tu avais, qui t'a transformé, elle n'a pas changé. Ce n'est pas parce que tu reviens à la maison que cette parole a changé. » Il remonte le verset, elle est à nouveau libre. Ça nous apprend quoi? C'est que la parole, ce n'est pas un sketch à vivre dans l'endroit où tu l'as entendu. Ça doit t'accompagner. C'est la vie partout. Tu as entendu que tu es passé de la mort à la vie. Et tu ne passes pas en jugement. C'est vrai partout où tu es. C'est vrai partout. C'est vrai. Même quand tu as fait une bêtise, c'est vrai toujours. Parce que tu vas te repentir. Tu ne passes plus en jugement. Le sang de Jésus purifie tes péchés. C'est une vérité. Si tu refuses, c'est toi qui vas mourir. La parole, elle est vivante, permanente. Ce n'est pas en fonction des circonstances, c'est à tout moment. C'est ça notre prédication. Nous passons à une démonstration encore extraordinaire dans Luc 7, 1 à 10. Où c'est un Romain qui va nous prêcher cette fois-ci. Mais pas l'histoire, mais la réalité. Luc 7, 1 à 10.
Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade.
Amen, amen. Ils trouvèrent guéri le serviteur qui était malade. Voilà un exemple de compréhension de la réalité permanente et vivante de la parole de Dieu. Ce centenier tenait à ce que son serviteur soit guéri. Et il apprend que Jésus est dans le parage. Il demande aux anciens juifs, aux anciens des juifs, d'intercéder pour lui auprès de Jésus. Et ces gens abordent Jésus et convainc Jésus d'aller pour guérir le serviteur du centenier. Mais le centenier envoie une deuxième délégation quand il apprend que Jésus est en mouvement vers chez lui. Donc l'accord est admis, est pris. Quand il apprend que Jésus est en mouvement, le centenier va envoyer des gens dire à Jésus, « Mais ta parole suffit. » Voilà. Oh, bien-aimé, aujourd'hui, Jésus, physiquement, il n'est pas parmi nous. Mais ce centenier nous apprend que nous n'avons pas besoin que Jésus soit physiquement là. Nous avons juste besoin de réciter sa parole. Il dit, Jésus, tu n'as pas besoin physiquement de venir chez moi. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri parce que ta parole, elle est réelle, elle oblige les choses à obéir. En fait, quand cette parole sort, en elle-même, elle a la puissance pour se faire obéir. C'est ça la différence. C'est pas comme certains qui parlent avec un bâton. Amène-moi la tasse. Il a un bâton là. En fait, c'est la personne obéit au bâton. C'est pas la phrase. Hein. L'enfant a peur parce que il y a le bâton en fait. Mais avec la parole de Dieu, Jésus a vu Matthieu dans le centre d'impôts, chef d'impôts, collecteur d'impôts, dans son bureau. Jésus dit, lève-y, suis-moi. Matthieu se lève, il abandonne son boulot et il suit Jésus. Ça, c'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de bâton. Pour dire, suis-moi avec un bâton, bien avec un revolver, comme les policiers viennent. Allez, à genoux, avec un revolver. En réalité, ce n'est pas la parole que les gens suivent. C'est le revolver qu'ils écoutent. Mais la parole de Dieu, celle, la véritable, celle de Dieu, c'est dans cette même parole qu'il y a la puissance pour te faire obéir. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui la rend suffisante. Donc tu n'as pas besoin d'autre chose. Tu l'entends. En elle, il y a la puissance du Saint-Esprit pour te faire aussi obéir. Il n'y a pas besoin d'un bâton, d'une menace. Non, c'est dedans cette puissance-là que... Et aujourd'hui, Dieu veut que nous croyons en cette puissance-là. Il dit, le centenier dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi. Ta parole va donner des instructions aux molécules, aux microbes qui sont dans le corps de mon serviteur. Ils vont s'en aller, ils vont se transformer, ils vont obéir. Dis seulement une parole. C'est ça la parole de Dieu, permanente et vivante. Attention, nous avons lu que c'est cette parole-là qui est l'évangile. Nous avons lu ça dans 1 Pierre. Parce que certains diront, mais moi je n'ai pas reçu de parole. Si, si, c'est l'évangile cette parole-là. C'est dans la Bible, c'est cette parole-là, la Bible. Et ce jour-là, ce serviteur avait été déjà guéri quand les gens sont arrivés parce que le centenier avait cru que la parole du Seigneur est permanente et vivante. c'est pas du théâtre, c'est pas de l'histoire, c'est la réalité. Vous savez, un jour, Jésus, dans Luc 5, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, dans Luc 5, 1 à 11, il dit à Pierre d'aller dans les eaux profondes, alors que pendant toute la nuit, ils n'avaient eu aucun poisson. Jésus dit à Pierre, jette le filet. Et Pierre jette le. Pierre dit, mais pendant toute la nuit, nous n'avons pas attrapé de filet. Nous n'avons pas attrapé de poisson. Mais je vais obéir à ta parole. Selon ta parole, il le dit, hein, selon ta parole, je vais jeter le filet. Il jette le filet. Et qu'est-ce qui se passe? Le filet est rempli de poissons. Donc la parole du Seigneur a créé les poissons. C'est une parole vivante, toute puissante et créatrice. Que nous ne nous privons pas de cela. Ne nous privons pas de cette parole vivante. C'est elle qui va déterminer les choses. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Tout ce que vous lirez sur terre aura été lié au ciel. Votre parole a du poids. Mais c'est cette parole-là que l'Évangile nous a présentée. Et nous pouvons nous dire aujourd'hui, mais comment on fait maintenant? Première chose, nous allons passer à la pratique. Première chose, la paix. La parole de Dieu nous expose tellement d'assurance, tellement de paroles, de phrases de réconfort, de délivrance, de guérison, de promesses d'amour. Il y a toutes les solutions dans cette parole. Tout. Je me souviens une fois, j'ai déjà raconté ça. J'ai raconté qu'une fois, quand j'étais dans la région parisienne, moi je ne travaillais pas, mais j'avais hébergé quelqu'un qui travaillait. Et quand je suis venu à Rouen, eh bien, la taxe d'habitation de là-bas m'a suivi à Rouen. Et un jour, j'ouvre la boîte aux lettres, je trouve 400 euros de taxe d'habitation. Or, je me souvenais qu'avant, comme je ne travaillais pas, je ne payais pas de taxe d'habitation. Et quand je vois que c'est 400 euros, je dis, mais ce n'est pas possible, moi, je n'ai pas travaillé dans la région parisienne, pourquoi ça me suit comme ça? J'ai fait les enquêtes, on m'informe par le service des impôts que vous avez hébergé quelqu'un qui travaillait. Alors, en tant que chrétien, je me suis dit, mais moi, j'ai hébergé quelqu'un, je ne peux pas l'appeler pour lui dire, mais à cause de toi, il y a une taxe d'habitation, fais quelque chose. Il faut que mon don soit total. Si je l'ai hébergé, c'est total. Donc, je dois assumer aussi ces 400 euros là. Mais sauf que je n'avais rien du tout. Et quand je suis en train de réfléchir comme ça, il y a une voix qui me dit, mais Jésus n'a-t-il pas payé l'impôt en sortant une pièce d'un poisson? Quand j'entends ça, parce que ça c'est écrit, maintenant il faut pas que ça peut rester historique. Jésus a sorti une pièce d'or d'un poisson. Moi ce jour-là, c'était vivant dans la tête. J'ai dit, ah mais c'est vrai. Je ne me suis plus inquiété de ça. J'ai dit, mais je paierai par une pièce d'or qui sortira d'un poisson. Et je ne me souviens pas comment j'ai payé cette taxe-là. Je ne me souviens pas. Il y a un vide dans mon cerveau. Je crois que Dieu s'en est occupé d'une manière ou d'une autre. Mais il m'a rappelé sa parole. Sa parole ne doit pas être historique. Il y a des gens aujourd'hui qui vous diront, mais mes frères, ça c'était autrefois. Non, la parole de Jésus est le même. Elle, c'est aujourd'hui et éternellement. Permanente et vivante. Il n'y a pas de frère, c'était autrefois, non. Il y a des gens qui ont vécu en Indonésie au XXe siècle, ils ont vécu la transformation de l'eau en vin, ils ont vécu la multiplication des pains en Corée, et dans un temps de réveil en Corée du Nord, du Sud. Il y a des gens qui ont vécu la multiplication du riz, ça là-bas c'était du riz. Comme quoi, Dieu peut tout multiplier, puisqu'il est le créateur. C'est cette parole-là qui a créé, c'est celle qui peut multiplier. Donc, première chose, bien-aimé, la paix. Tout ce que nous pouvons rencontrer sur terre a une solution dans la parole. Problème d'adoration, il y a la solution dans la parole. Problème de manque d'argent, il y a la solution dans la parole. Problème de péché, il y a la solution dans la parole. Puisque la parole contient toutes les solutions, première chose, recevez ma paix, dit le Seigneur, que la paix soit avec vous. Nous devons tout aborder dans la paix. Nous ne devons jamais paniquer. Tout aborder dans la paix parce que dans sa parole, il y a tout. Deuxième chose, nous devons intéresser Dieu à tout ce qui est un problème pour nous. Nous lisons dans Jean 6, 11 à 16. Et pardon, Juges 6, 11 à 16. Juges 6, 11 à 16. La paix est face aux difficultés, se rappeler que notre Dieu n'est pas relégué dans l'histoire. Il est réel. Juges 6, 11 à 16.
Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël ? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. »
Nous voyons Gédéon être appelé comment ? Vaillant héros. Lui dit, « Stop, monsieur l'ange. Tu m'appelles vaillant héros, mais regarde notre situation. Nous sommes dans la misère, nous sommes dans la galère. Et en plus, il n'y a pas que ça. Nos parents nous racontent les exploits de Dieu dans l'histoire. Notre Dieu serait-il historique ? Là, je dis non. Votre Dieu n'est pas historique. Il est vivant, il est permanent. D'ailleurs, là, il va agir à travers toi. C'est pourquoi il t'appelle vaillant héros. Avec toi seul, il va battre les Madianites. Ah, ça, c'est notre Dieu. Parce que vous savez, le danger, c'est quoi ? À force qu'ils deviennent historiques, le danger, c'est quoi ? C'est que nous allons idolâtrer des humains. Les gens dont on nous dit qu'ils ont fait des exploits autrefois, ils vont prendre la place de Dieu dans nos têtes, dans nos cerveaux. Quand on pensera à un exploit, c'est leur image qui viendra dans notre tête. Ce n'est plus l'image de Dieu. Ce n'est plus l'image de Christ. Mais si nous mettons la parole de Dieu en action, face à nos difficultés, nous nous souviendrons de Dieu. Gédéon a refusé que Dieu soit historique. Dieu m'appelle vaillant héros, mais il n'a qu'à agir maintenant. Bien-aimés, nous ne devons plus laisser les problèmes perdurer. Nous devons les confronter à la parole. Si nous voulons vivre la permanence et la réalité de la parole de Dieu, nous ne devons plus laisser les problèmes perdurer. Ça va nous voler la foi face à une difficulté et en même temps, nous lisons tout ce que Dieu nous a fait comme promesse. Je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, voilà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Et tu as un tas de choses qui t'entourent de négatif et tu te laisses faire. Non. Puisque Dieu est infini, il est infiniment puissant. Eh bien, nous pouvons tout lui présenter à tout moment. Voilà. L'embêter à tout moment, puisque pour lui, ce n'est pas de l'embêtement. Il est tout puissant. Qu'il sorte. Dieu, s'il te donne 50, lui n'a pas changé. Donc, du coup, ce n'est pas comme si lui diminuait et que ça devienne un problème. S'il te donne 1000, lui n'a pas changé toujours. Donc, tu peux encore lui prendre 1 million, lui ne changera toujours pas. Alors, donc, nous pouvons lui poser tout ce que nous avons comme difficulté, confronter ça à la parole. Tu dis, Dieu, tu m'as dit ceci, mais moi je vis cela. je voudrais que ta parole aplanisse ce que je vis. Voilà. C'est comme ça que la parole deviendra réalité pour nous. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de dire que tout va être résolu. Il y a des chrétiens qui ont été tués. Il y a des chrétiens qui ont été persécutés, qui ont été emprisonnés. Mais à chaque fois, Dieu a répondu par sa parole. Le frère Paul avait eu un problème. Il dit, j'ai prié 3 fois. Mais le Seigneur ne l'a pas guéri. Mais le Seigneur lui a dit, dans ce cas, j'interviens de telle manière. De sorte qu'à la fin, il était comment ? Il était heureux. Il dit, je me réjouis maintenant de mes faiblesses. J'ai compris que la grâce de Dieu me suffit. Voilà. Donc, il y a une réponse, la réponse de Dieu pour chaque chose. Mais si nous n'exposons pas les choses à Dieu, nous laissons les choses perdurer, nous entourer sans réaction par rapport à la parole, nous oublierons l'efficacité de la parole de Dieu. Nous oublierons ça. Nous oublierons la réalité. Elle va devenir historique. Gédéon a refusé. On l'appelle vaillant héros. Il a dit, ah non, moi je soumets le problème d'aujourd'hui. Nous sommes dans l'esclavage là. Nous sommes dans l'esclavage. Ce n'est pas normal si je suis un vaillant héros. Ce n'est pas normal avec les exploits dont on nous parle. Ce n'est pas normal. Voilà. Dernier point, bien-aimé. Comment la parole va devenir permanente et vivante? Eh bien, en voulant la mettre en œuvre dans tous les projets qu'elle expose. La parole de Dieu nous expose plusieurs projets. Matthieu 28, 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Marc 16, 15 à 20. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et au verset 20, c'est dit qu'ils allaient partout prêcher la bonne nouvelle et Dieu confirmait la parole. Il confirmait la parole. Il montrait la réalité. Ce n'était pas du théâtre, ce n'était pas de l'histoire. Moi, je dis aux bien-aimés aujourd'hui, ne passons pas, d'ailleurs le frère Paul l'a dit aussi, ne passons pas notre temps dans des querelles entre religions. Proclamons la parole. Elle se défendra toute seule. Elle est permanente et vivante. Ça veut dire que d'elle-même, elle peut se défendre. Elle est vivante. C'est comme un humain, la parole de Dieu. Mais en infiniment puissant. Donc elle peut elle-même se défendre. Toi, proclame la parole. Ne cherche pas à expliquer. Proclame. Cite les versets. Le peu d'explication, ça doit être pour lever un équivoque, un truc comme ça. Mais ce n'est pas pour expliquer Dieu. Tu présentes les choses. Et la parole elle-même, elle se défendra. Agissons au lieu de trop faire, de trop parler. Mettons en place des projets. La Bible nous expose les projets. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il y a des gens qui ont vécu la réalité de la parole parce qu'ils ont mis ça en œuvre. Albert Stanley Dale, il est parti chez les Yali, un peuple tueur, cannibale, un peuple de cannibales. Il a vécu au milieu d'eux. Pendant des années, il a amené même sa famille au milieu de cannibales. Et il n'est pas mort là où il était parti, mais quand il a voulu changer encore de tribu, c'est là qu'on l'a tué. Mais c'était, il faut lire l'histoire pour comprendre, c'était quand même la volonté de Dieu. Mais c'est pour dire que ce sont des gens qui ont vécu la réalité de la parole de Dieu quand... il est dit que la parole de Dieu ne retourne point à lui sans accomplir ses objectifs. Ils ont vécu ces réalités-là. Ils ont vécu le fait que la parole de Dieu nous présente une protection totale venant de Dieu. Il a vécu tout ça. Vous imaginez quelqu'un qui était cannibale, qui s'est converti, qui devient comme un agneau. Ils ont vécu ces choses-là parce qu'ils ont voulu mettre en place les projets concernant la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont devenus égoïstes. C'est sa famille et son boulot, c'est bon. Il est dans l'attente de la fin des temps, enfin de la fin du monde, pour enfin aller au paradis. Mais entre-temps, il ne vit plus la réalité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est devenue quelque chose d'historique. Il peut même la défendre, hein, bec et ongles, mais il va la défendre comme une vérité historique, comme quelqu'un défendrait son équipe. Un Marseillais va défendre l'Olympique de Marseille, même si elle perd 4-0. Il va défendre son équipe. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a des chrétiens qui défendent les Écritures, mais au fond d'eux, ils sont malheureux. Ils défendent, nous on est des chrétiens, c'est la vérité. Mais au fond d'eux, ils sont eux-mêmes pas bien, parce qu'ils ne vivent pas la réalité de la parole de Dieu. C'est devenu historique pour eux. Ils ont fait un choix propre, historique, mais ce n'est pas un choix réel, un choix de la réalité de la vie. Le Seigneur veut que nous entrions dans la réalité, dans la vie. Et comme je l'ai dit, que ce soit les difficultés, que ce soit les projets, ça peut donner l'impression de traîner. Mais nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Si certaines difficultés traînent, persévérons. Il y a le plan de Dieu dans l'affaire. Il va nous parler. Cette parole résout tout. Elle te donne aussi la force d'attendre. Elle a toutes les ressources. Mais ne sois pas comme quelqu'un, comme dit les Écritures, tu t'es regardé dans le miroir, après tu as oublié comment tu étais. Non. Il faut aller jusqu'au bout avec la parole de Dieu. Persévérer. Et certains projets aussi peuvent traîner. Persévérons. Joanne Shelter, elle a attendu 6 ans pour avoir la première conversion chez les Bangalaos. 6 ans. 6 ans pour qu'il y ait une conversion. Mais quand les conversions commençaient à se manifester, ça a été une pluie de conversions. Et plus tard, c'est toutes les tribus du coin, de toute une région qui ont été converties. Voilà. Donc, parce qu'elle a persévéré dans la mission que Dieu lui avait donnée de traduire la Bible dans la langue des Bangalaos. Et il y a eu le réveil dans la région. Tous les missionnaires ont persévéré. J'avais parlé de l'histoire de John Patton, qui était dans l'île d'Aniwa, où les gens n'avaient jamais vu de l'eau qui vient du sous-sol. Leur eau venait de la pluie, parce que c'est une île, petite île entourée de la mer. Tu ne peux pas boire l'eau de la mer. Leur eau venait toujours de la pluie. Ils avaient des trous. Donc dès que la pluie tombait, ils gardaient l'eau de la pluie dans des trous. Mais ils n'avaient jamais expérimenté l'eau qui peut sortir d'un puits. Pour eux, ça n'existait même pas. John Patton a dit ceci. Elle a dit, Seigneur, toi qui as créé toutes choses, toi qui es l'eau vive, eh bien, sors de l'eau, du sous-sol, afin que ces gens-là comprennent qui tu es, que tu es l'eau vive, l'eau qui donne la vie. Permets que je fasse un trou et qu'il y ait de l'eau qui sorte. John Patton a commencé 3 mètres de trou, rien du tout. Il a demandé l'aide, il les a payés avec des objets, l'aide des indigènes, ils l'ont aidé. Arrivé vers les 7 mètres, les parois commençaient un peu à s'écrouler. Ils ont eu peur, ils ont dit, tu continues le boulot tout seul. Il a continué. Arrivé à 9 mètres, le Saint-Esprit lui a dit, demain, l'eau sortira. Et le lendemain, quand il met un coup de pelle, l'eau jaillit. Les gens du village viennent voir l'eau propre, l'eau buvable, venir du sous-sol. Ils disent, mais comment est-ce possible? Ton Dieu est capable de sortir de l'eau du sous-sol. C'est lui le véritable Dieu. Ils ont pris tous leurs fétiches, toutes leurs amulettes, ils ont mis au centre du village, ils ont brûlé. Le chef du village est le premier converti. Lis-nous l'évangile. La vraie eau, dans l'île d'Aniwa. Parce qu'il y a des gens qui ont cru que la parole de Dieu est une réalité. Voilà. Que nous puissions retourner à cela. Pas d'histoire, pas de théâtre, mais une réalité véritable. C'est ça la Bible. Que Dieu nous aide au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta réalité. Tu es ressuscité. Peut-être physiquement tu n'es pas visible, mais par ton esprit tu es vivant au milieu de nous, pour accomplir ta volonté qui est que chacun de tes disciples soit une reproduction de toi-même, produire ce qu'il cite des paroles qui produisent des choses qui n'existaient pas, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, vivre cela à notre époque. Nous voulons vivre cela à notre époque. Devenir des disciples, nous tous, sans exception, qui produisons des choses par ta parole. Que ce ne soit pas de l'histoire ta parole, mais que ce soit de la réalité. Comme autrefois, tu avais dit que la lumière soit, elle fut. Que nous nous donnons des instructions et qu'elles s'accomplissent par la foi en Jésus. Alléluia. Que notre foi soit restaurée. Notre conception de toi soit restaurée. Au nom de Jésus. Ta parole subsiste à jamais, Seigneur. Ta parole subsiste à jamais. C'est celle que nous voulons vivre. C'est elle que nous voulons mettre en production à nouveau, dans notre génération. Nous ne voulons pas être une génération qui raconte seulement les exploits des autres générations. Nous voulons aussi que la génération qui va venir après nous raconte ce que nous allons vivre. Réveille-nous, Seigneur, dans ton amour et dans ta bonté. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.